l'intelligence des abeilles avec Aurore Avargues-Weber qui est avec nous. Vous qui êtes chercheuse au CNRS et spécialiste du comportement animal. Sur quoi portent vos recherches d'ailleurs exactement ?
Alors moi je travaille sur l'intelligence en gros des abeilles, donc on essaie de comprendre ce qu'elles sont capables d'apprendre, comment fonctionne leur cerveau, quel est leur niveau de conscience avec un grand mot. Voilà, essayer vraiment de comprendre en tant qu'un modèle insecte, ben voilà ce qu'elles sont capables d'apprendre.
Et vous ne travaillez que sur les abeilles ?
Très principalement sur les abeilles. Après, lorsque je travaille sur d'autres animaux, c'est surtout pour éclairer ce qu'on a découvert sur les abeilles. Par exemple, je peux essayer d'aller voir les guêpes ou les frelons, s'ils ont les mêmes types de capacités. Ou alors, là maintenant, j'ai un projet pour travailler sur les céphalopodes, puisque c'est un grand autre modèle invertébré qui est considéré comme intelligent, mais il y a assez peu de connaissances. Et donc, ça serait intéressant de voir si ce qu'on trouve chez l'abeille, on va le trouver aussi chez la pieuvre, par exemple.
Oui, absolument. Alors, l'abeille, vous avez signé une étude toute récente, justement, Aurore Avargues-Weber, qui nous montre une nouvelle fois qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités cognitives de ces insectes. Pour quelles raisons ? Sur quoi vous êtes penché cette fois-ci ?
Alors là, cette étude, c'est intéressant parce que ça se rapproche aussi un peu de l'intelligence artificielle, etc. Alors, je vous raconte, on parle d'apprentissage statistique. Donc, c'est quoi en fait ? C'est que notre cerveau, en permanence, il va analyser ce qu'il perçoit et essaye de comprendre le lien entre les choses, les propriétés statistiques. Voilà, qu'est-ce qui va ensemble, etc. Ce qui nous permet de pouvoir comprendre ce que c'est qu'un les objets. Et après, les scènes. Donc, pour le bébé, par exemple, vous pouvez bien comprendre, au départ, il a un flux d'images qu'il a du mal à interpréter. Et à force de voir de nombreuses scènes, il finit par comprendre que telle partie d'un objet va toujours avec un autre. Et donc, une chaise, voilà, est composée d'une assise et de pieds, par exemple. Après, au niveau des objets, que ces objets, les chaises, par exemple, restent à côté des tables, la plupart du temps. Voilà. Et donc, à force, on a une représentation du monde et notre cerveau, du coup, met du sens à ce qu'on voit. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on voit une image, tout de suite, les objets, en fait, s'extraient. Et donc, nous, c'est comme un peu une illusion d'optique, hein. C'est que le cerveau va mettre en valeur les objets et on arrive mieux à comprendre ce que l'on voit. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe passivement, et qui est assez complexe, a priori, puisque du coup, voilà, le cerveau voit toutes les co-occurrences, c'est-à-dire toutes les parties d'image qui sont toujours ensemble, etc. Il tire de l'information de ça. Et c'est vraiment le même principe, je vous disais, que deep learning en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on leur donne plein d'images.
Aux abeilles ?
Qui représentent des humains, par exemple. Non, là, du coup, intelligence artificielle, plein d'images qui représentent des humains, et le réseau de neurones va apprendre quelles sont les caractéristiques communes.
Et donc ça, c'est le même principe. Vous avez réussi à le montrer chez les abeilles.
Et donc voilà, c'est exactement ça. On s'est demandé, comme du coup, moi depuis un petit moment, voilà, je travaille sur les abeilles, on voit qu'elles savent compter, qu'elles sont capables de prendre des relations et tout ça. Et donc je me suis demandé, mais est-ce qu'elles aussi, elles ont une représentation mentale comme ça de l'environnement qui évolue passivement en fonction de ce qu'elles perçoivent. Et donc on a montré effectivement tout un tas d'images aux abeilles.
Ah bon ?
Donc elles regardaient ça.
Mais ça les intéresse ?
Des images de quoi ?
De miel, de pot de miel ?
Non, du coup là c'était vraiment, on a essayé quelque chose de très abstrait, très simple, parce que pour pouvoir bien comprendre le mécanisme qui est en dessous. Donc, c'était des formes géométriques, des triangles, des ronds, des étoiles, des carrés. Et donc, une scène, en fait, il y avait plein de formes ensemble qui varient. Donc, plein d'images avec des formes dans tous les sens. Sauf qu'il y avait un point commun entre ces images, c'est que, par exemple, le triangle est toujours au-dessus du carré. Donc, même nous, on a du mal à le concevoir parce que vraiment, ça varie beaucoup. Mais il y a toujours ce point commun. Et en fait, ben, l'être humain, comme je disais, avec son apprentissage statistique, inconsciemment, il va s'en rendre compte. Et après, on va avoir l'impression qu'une image qui a ce triangle au-dessus du rond est plus familière, sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est inconscient. Et donc, on a voulu tester ça chez l'abeille. Et donc, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on leur donnait une récompense sur ces images. Donc, elles avaient rien à apprendre, puisqu'elles avaient la récompense dans tous les cas. Mais ça les motive à regarder. Comme vous me demandiez avant pourquoi elles s'y intéressent. Voilà, ça les motive, elles ont du sucre. Et après, du coup, on leur demande de faire un choix entre deux images, une qui a ce triangle au-dessus du rond et une autre où le triangle est à côté du rond, par exemple. Et on se rend compte que les abeilles vont être attirées par la première image et donc elles ont appris passivement, voilà, la relation, cette relation stable entre le triangle et le rond.
Et ça, vous vous en rendez compte, enfin, vous les projetez comment, les images, dans une ruche ou vous mettez les abeilles dans une sorte de bocal, d'aquarium, elles sont seules, enfin, concrètement à quoi ça ressemble ce test-là ?
Alors on travaille avec des butineuses, donc en extérieur. Mmh. Donc les butineuses, donc naturellement, elles vont chercher du nectar dans les fleurs. Et en fait, lorsqu'elles vont récupérer du nectar dans une fleur, elles vont apprendre les caractéristiques de cette fleur. La forme, la couleur, l'odeur, pour aller chercher après des fleurs qui sont de la même espèce, qui ont une plus grande probabilité d'avoir du nectar. Donc ça, c'est quelque chose qu'elles nous utilisent, puisque du coup, ces butineuses, si on leur met du sucre sur une image, et ben après, elles vont avoir revenir essayer de trouver une image la plus proche possible. Et donc concrètement, on a des abeilles qu'on attire avec de l'eau sucrée. Donc on va les chercher au bord de la ruche, on leur met une cuillère avec de l'eau sucrée, c'est quelque chose de très simple. Elles les amènent sur notre table de travail, qui est à 15 mètres de la ruche. Et donc l'abeille, on la met un petit peu de peinture sur le dos pour la reconnaître. Et ensuite, elle revient chercher son sucre. Et on a un système, on appelle un labyrinthe en Y, ce qui est un grand mot, mais c'est juste parce qu'il y a deux choix. C'est-à-dire, voilà, l'abeille rentre par le bas du Y, si vous imaginez un Y majuscule, bien sûr. Et après, du coup, elle a le choix entre deux bras, qui ont chacune une image. Et c'est comme ça qu'on peut faire le choix. C'est-à-dire que du coup, on voit si l'abeille, elle va à droite ou elle va à gauche. Si elle fait le bon choix, elle a du sucre. Si elle fait le mauvais choix, elle a une punition qu'on met sous forme de solution amère.
Oh bah c'est
donc
pas
là,
sympa,
dans cette étude-là, voilà, non, c'est pas sympa, mais c'est mieux que des chocs électriques, je ne
sais
quoi.
Oui, effectivement.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça les blesse pas, mais du coup, ça les motive à travailler bien. Voilà.
Mais Aurore Vargas-Weber, le fait de savoir que l'abeille est capable d'apprentissage statistique, finalement, ça nous apporte quoi? Est-ce que c'est une grande avancée dans le monde animal de le savoir, par exemple?
Alors, ça nous apporte plusieurs choses. Déjà, la première, c'est en fait l'étonnement, puisque jusque-là, on s'intéressait à ces questions-là que chez le primate. En gros. Ouais. C'est quelque chose qu'on imaginait qu'il fallait vivre longtemps, avoir un cerveau très complexe qui fait voilà des approches bayésiennes, etc. Et donc, le fait de se dire, bah non, l'abeille aussi, ça nous rend compte, en fait, de un, c'est peut-être pas si compliqué. Première, parce que l'abeille a 1 million de neurones, donc c'est quand même pas mal, mais c'est ridicule par rapport à nos 100 milliards.
Ouais.
Et donc ça, c'est une première chose. Donc, dis, bah, finalement, c'était pas si complexe. Donc, ça nous pousse à comprendre comment ça marche. Et l'autre chose, c'est l'universalité potentielle de ce phénomène. C'est-à-dire que si, bon, ok, pour l'instant, on a à peu près 2 points. On a l'homme et l'abeille. Mais ils sont tellement éloignés d'un point de vue évolutif que ça laisse sous-entendre que quasiment toutes les espèces, en fait, seraient capables de cet apprentissage statistique. Et donc, c'est un peu comme d'autres études sur les nombres. On voit que les abeilles savent compter. Et finalement, ces études-là, pionnière a fait que tout un tas de chercheurs ont testé leurs propres animaux auxquels ils n'auraient jamais pensé avant qu'ils savent compter, donc ouais. L'ours, le lézard, la tortue justement, et on s'est rendu compte que oui, tous ces animaux savaient compter en fait, et que c'est beaucoup plus universel que ce qu'on pensait. Et donc ça nous montre que finalement, confrontés au même problème qu'on pensait que peut-être on n'avait pas besoin de savoir résoudre quand on est une abeille, ben si, finalement c'est quand même nécessaire de la cognition.
Mais c'est
quand même nécessaire d'avoir un certain niveau de compréhension.
C'est utile pour une abeille de savoir compter alors dans sa vie de tous les jours, quand elle va justement sur les fleurs pour ramener le pollen et...
Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est à quoi ça leur sert tout ça? C'est une grande question que l'on se pose. Alors bien sûr, on a des hypothèses, mais c'est difficile de d'être sûr. L'une des hypothèses, c'est que on montre notamment qu'elles comptent dans lorsqu'elles naviguent, c'est-à-dire qu'elles utilisent des repères visuels pour retrouver leur ruche, et donc elles peuvent compter. Bah voilà, ma ruche est après le 3e platane, ou c'est la 2e en partant de la gauche. Voilà, des choses comme ça qui peuvent les aider. Elles peuvent peut-être compter aussi pour reconnaître les fleurs, le nombre de pétales, ce genre de choses. Pour être attirée par un ensemble de fleurs où il y a le plus d'abeilles. Voilà, c'est sûr que les quantités, c'est toujours assez utile. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps, du grand spécialiste des nombres chez les primates, qui a fait justement tourner un réseau de neurones artificiels avec des images, juste pour faire de la reconnaissance d'images. Et il s'est rendu compte que ce réseau de neurones avait créé des détecteurs de nombres pour comprendre les images. Et donc ça m'inspire, parce que je me dis, peut-être que finalement, cette reconnaissance des nombres émerge naturellement lorsqu'on a besoin d'avoir un cerveau qui comprend vraiment les images. Peut-être que c'est une des caractéristiques des objets, etc., qui est très utile.
Mais elle peut faire des additions et des soustractions, c'est ça l'abeille ?
Oui, elle peut, naturellement, elle va ranger les nombres du plus petit au plus grand. On n'est pas monté au-dessus de 6, hein, pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Et donc, elle fait des additions. Alors, c'est des choses très simples, mais justement, mon labyrinthe en Y, je vous parlais tout à l'heure, on lui montre à l'entrée du labyrinthe une image avec 3 ronds, par exemple. Donc, c'est 3. Et ensuite, elle a le choix entre 4 et 3. Et donc, elle doit choisir toujours, la règle du jeu, c'est, elle doit choisir celle avec le même nombre qu'à l'entrée, plus 1.
Ouais.
Donc si c'est 3, elle doit aller à 4, si c'est 5, elle doit aller à 6. Et la complexité, parce qu'on aime bien les challenger, ces petites abeilles, c'est que si cette image elle est bleue, il faut faire plus 1, si elle est jaune, il faut faire moins 1. Ça vous donne une indication que ça, en fait, les abeilles y arrivent très facilement.
Ouais.
Et ça vous montre que vraiment, pour elles, manipuler tout ça, ces concepts, ces nombres, c'est quelque chose d'assez facile.
C'est facile.
Est-ce qu'elles sont capables d'avoir des émotions, les abeilles?
Oui, ça fait partie d'une des choses. Alors, c'est toujours pareil quand on parle de cognition chez des abeilles ou des invertébrés en général. En anglais, on met toujours, vous savez, le like, donc emotion like.
Ouais.
Je sais pas comment on peut traduire en français, juste parce que dans le mot émotion, bien sûr, on met beaucoup plus de choses qu'on n'arrivera pas à tester chez l'abeille. C'est-à-dire tout ce qui est la boîte noire, la sensation qu'elle peut avoir. Maintenant, ce que l'on observe chez les abeilles, c'est qu'elles vont réagir en fonction d'un événement passé et elles vont changer leur tempérament. Par exemple, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc quand on est déprimé, stressé, etc., on a la tendance à avoir le verre à moitié vide. Et ça se caractérise comment en comportement? C'est que par exemple, si on donne à une abeille une récompense si elle choisit du rouge, une punition si elle choisit du jaune.
Mmh.
Qu'est-ce qu'elle fait face au orange? Voilà, l'orange est neutre, c'est un mélange de rouge et de jaune, il est a priori ni bon ni mauvais. Et donc, nous, dans cette tâche-là, et tous les mammifères, si on est stressé, on va plutôt éviter l'orange. Si au contraire, on est enthousiaste, de bonne humeur, etc., dans des émotions positives, on va aller sur l'orange. Eh ben, l'abeille, c'est pareil. On a montré la même chose.
Ah, donc l'abeille est capable d'avoir des émotions, et ça, c'est beau, finalement. On ne verra plus jamais cet insecte de la même manière. Merci beaucoup, Aurore Avargas-Weber, vous qui êtes chercheuse au CNRS, spécialiste du comportement animal, de nous avoir parlé, donc, entre autres, de l'une de vos dernières études.